Genève. Côté. Nature.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Nature hebdomadaire de l'association NARIES, Genève, Côté Nature. Nous sommes une fois de plus ravis de vous présenter cette émission. Je suis Émilie et je suis comme toujours avec ma sœur jumelle Virginia qui a un peu perdu sa voix aujourd'hui.
Bonjour!
Nous nous approchons dangereusement de Noël. J'espère que vous avez tous prévu de belles tablées et de jolis moments en famille. Nous avons dû nous passer de ces fêtes l'année passée à cause de ce maudit virus et il menace de refaire des siennes, donc profitons cette année mais en faisant toujours attention. Conservez les gestes barrières et protégez les personnes sensibles.
Le volet d'aujourd'hui est un côté science et puisque nous sommes juste avant Noël, nous avons décidé de décortiquer certains mythes ou certaines habitudes que nous avons pendant les fêtes de Noël pour voir d'où nous viennent ces traditions. Parfois, elles ne sont issues que de légendes, parfois d'un fait avéré. On espère que ces histoires vous plairont.
Tout d'abord, je vous propose de commencer par le personnage le plus important de cette période, j'ai nommé le Père Noël. Alors, l'origine du Père Noël n'est pas évidente à trouver, parce qu'il existe tellement de légendes qu'on peut aller dans tous les sens. Chronologiquement, il semblerait que la plus ancienne des légendes soit celle du dieu Odin, un viking, qui descendait sur Terre aux alentours du solstice d'hiver, donc le 21 décembre, pour offrir des cadeaux aux enfants. Le personnage qui vient distribuer des cadeaux viendrait donc plutôt des pays nordiques, mais il n'est pas lié de prime abord à la fête chrétienne de Noël.
Côté chrétien, justement, le Père Noël est à la base Saint Nicolas. Là, on est dans la réalité puisque Saint Nicolas a existé. Il était évêque de Myre, donc Nicolas de Myre, et a vécu dans le sud de la Turquie à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ. Il venait apparemment d'une famille opulente et distribuait anonymement des cadeaux et de la nourriture aux pauvres pendant la nuit. Ce n'est qu'au XVIe siècle que la légende de Saint Nicolas fut liée à la nativité et petit à petit c'est lui qui est devenu le Père Noël. Concernant la relation avec les enfants, elle provient d'un fait divers italien. On dit qu'un boucher a découpé 3 enfants qui ont été ressuscités par miracle. Cette histoire s'est produite à Bari, une ville où sont conservées une partie des reliques de Saint Nicolas, ce qui a fait le lien avec le personnage. On fête la Saint Nicolas le 6 décembre parce que c'est la date de la mort de l'évêque.
Mais là, on n'a toujours pas le vrai Père Noël. Eh bien, la transformation de Saint Nicolas en Père Noël est attribuée à un pasteur anglais, Clement Clark Moore, qui a écrit un conte en 1821 dans lequel Santa Claus a, quelques kilos en trop, une crosse en forme de sucre d'orge et un bonnet à la place de la mitre. C'est aussi dans cette histoire que la mule de l'évêque devient un traîneau de reine. La dernière modification date de 1860, quand un illustrateur new-yorkais, Thomas Nast, a dessiné le fameux Santa Claus et qu'il a alors remplacé les vêtements religieux par une robe rouge.
Beaucoup ont entendu parler de la légende qui dit que c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël, mais c'est une histoire un peu trop simplifiée. Certes, c'est dans une publicité pour Coca-Cola que notre vieux monsieur a troqué sa robe pour un pantalon et une tunique, mais les prémices existaient depuis longtemps comme on l'a vu. Ce qui est vrai, c'est que le lien que Coca-Cola a utilisé avec notre gentil Père Noël a permis de les faire connaître tous les deux de par le monde, même dans des régions qui ne fêtent pas Noël. D'ailleurs, aujourd'hui, le Père Noël est quasiment détaché de toute connotation religieuse.
Comme on l'a dit, les légendes concernant le Père Noël sont nombreuses. On ne va pas toutes les évoquer aujourd'hui, parce qu'on a d'autres histoires à vous raconter. Mais si vous réécoutez notre émission sur le règne d'Émicette, on vous a raconté aussi un lien entre le Père Noël qui descend de la cheminée et les transes des chamans qui consommaient de l'amanite phalloïde et qui étaient sujets à de nombreuses hallucinations. Le lien avec ce champignon toxique peut d'ailleurs aussi expliquer la couleur des habits du vieil homme.
Voilà pour le personnage principal. Mais il est loin d'être le seul dans les traditions. Côté religion chrétienne, évidemment, on a le petit Jésus et les rois mages, mais il faut savoir que nombre de nos mœurs nous viennent d'Allemagne, quand les protestants se sont imposés en Europe au XVIe siècle, et ces traditions sont arrivées ensuite en France et en Suisse par l'Alsace. À Strasbourg, par exemple, en 1570, le pasteur Johannes Flinner était contre le fait que les enfants reçoivent des cadeaux à la Saint-Nicolas. Il a alors contribué à faire abolir cette fête. Il a aussi décidé de contrecarrer les catholiques et les croyances païennes en décrétant que c'est l'enfant Jésus qui offre les cadeaux.
En Italie, on a un personnage supplémentaire, c'est Befana ou Strenia, la divinité de la nature. Elle a rencontré les rois mages sur leur route, ils l'ont invitée à rencontrer le petit Jésus, mais elle a refusé et elle est rentrée chez elle pour préparer des desserts et des sucreries. Mais après, elle fut prise de remords, ou ensorcelée, ou christianisée selon les versions, et elle a tenté de retrouver en vain la caravane des rois mages. Du coup, elle a distribué ses friandises aux enfants sur la route, et depuis, on dit que c'est elle qui remplit la chaussette de bonbons pour l'épiphanie le 6 janvier.
D'autres personnages importants sans qui il n'y aurait pas de cadeaux distribués, ce sont les reines. Mais on les garde pour plus tard, on vous fera un topo des animaux de Noël qu'on trouve dans diverses traditions dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, on va parler des symboles, et notamment la couronne de l'Avent. Cette jolie préparation qui contient des bougies qu'on allume une à une pendant le mois de décembre. À notre époque, tout comme les calendriers de l'Avent, elle permet de patienter jusqu'aux fêtes de Noël en ayant des petites réjouissances durant le mois qui précède. Mais au départ, elle a une symbolique celte. Elle est ronde, en général, et représente le soleil et le cercle de la vie. Quand on est en hiver, on se réjouit de revoir la belle saison, et on espère que le soleil reviendra. Historiquement, la première couronne est née au XVIe ou XVIIIe siècle, en Allemagne encore. Elle était fabriquée avec des branches de sapin, de buis ou de gui, et elle était décorée avec des pives et des rubans de couleur. Elle était suspendue comme un lustre. Elle avait d'ores et déjà les quatre bougies que l'on allumait chaque dimanche.
Après la couronne, il y a évidemment le sapin. Dans les croyances, en hiver, les mauvais esprits rôdent et il faut donc s'en protéger. Les arbres ont de tout temps été adorés pour leurs propriétés sacrées et donc, pour lutter contre les esprits malins, on faisait rentrer dans les maisons des branches ou des arbres. Au début, c'était une tradition bourgeoise allemande, mais elle est devenue un grand classique de Noël au fil du temps. Normalement, on ne prépare son sapin que la semaine précédant Noël parce que les feux de cheminée le font vite dépérir et il est ensuite gardé au grenier et brûlé au printemps quand le beau temps est revenu.
Dans les croyances moins connues, il y a la rose de Noël. Selon la légende, la rose de Jéricho, comme on l'appelle aussi, s'est ouverte à la naissance de Jésus, s'est refermée à sa crucifixion et s'est rouverte le jour de sa résurrection. Dans les fêtes, cette rose a la particularité de pouvoir se dessécher quand le climat est sec ou quand elle arrive à maturité, ce qui permet à ses graines d'être transportées par le vent. Dès qu'elles atteignent un climat plus humide, elles s'enracinent et donnent une nouvelle plante. Dans l'Europe de l'Est, on trouve une tradition qui est encore maintenue aujourd'hui. Au repas de la veille de Noël, on dépose sur la table une tige de rose de Jéricho. Grâce à l'humidité, ses rameaux s'étalent, puis ils se referment et selon la vitesse de son épanouissement, on pronostique une récolte abondante ou non. Des tiges sont conservées pieusement dans certaines familles comme des reliques et sont déposées sur la table de Noël chaque année.
Une autre tradition est liée aux récoltes. C'est assez logique en fait. À Noël, on est dans les jours les plus courts de l'année. Après le solstice, les jours rallongent et on attend le printemps avec impatience. Cette fois, on descend en Provence. Là-bas, on a la tradition de la germination du blé, et ce depuis l'Antiquité. À la base, elle vient des Romains, mais les chrétiens s'en sont emparés. La période correspond à celle à laquelle on plante le blé, mais le principe est que le 4 décembre, on prend trois coupelles dans lesquelles on met des grains de blé et de l'eau. Elles représentent la Sainte Trinité dans la religion chrétienne. Les coupelles sont sur la table de Noël, puis décorées le 25 décembre et placées près de la crèche jusqu'à l'épiphanie. Et les blés sont ensuite plantés en pleine terre. Si les blés ont bien germé, la récolte de la nouvelle année s'annonce prospère.
Nous sommes gentiment à la moitié de notre émission et donc il est temps de faire une pause musicale. Aujourd'hui, pour rester dans le thème, nous allons écouter un chant de Noël mais dans une version un peu originale. C'est « I want the hippopotamus for Christmas » du groupe Postmodern Jukebox.
Radio Cité Genève.
I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. I don't want a doll, no dinky tinky toy. I want a hippopotamus to play with and enjoy.
See me now on Christmas.
standing there. I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. No crocodile, no rhinoceros. I only like hippopotamuses and hippopotamuses. Like me too. I could see me now on Christmas morning, creeping down the stairs. Oh, what a joy and what surprise when I open up my eyes and see my hippo hero standing there. I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do.
C'était I Want a Hippopotamus for Christmas du groupe Postmodern Jukebox. Vous voici de retour dans Genève, côté nature, l'émission hebdomadaire de l'association Nariès. Pour cette dernière émission de l'année, nous vous proposons un côté science sur les origines des mythes liés à Noël.
Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé des personnages importants liés à Noël, comme le Père Noël, le Petit Jésus ou Saint-Nicolas. Et nous avons évoqué quelques symboles comme la couronne de l'Avent, le sapin ou la rose de Jéricho en parlant de leurs origines. Il est temps maintenant de parler des animaux qui sont liés à la fête de Noël.
Importante pour célébrer la fête, surtout sur la table, on va commencer par parler de la dinde. Alors déjà, elle n'a pas toujours été la star des menus de Noël. À l'origine, on consommait de l'oie. Cependant, quand l'Amérique fut découverte, les explorateurs ramenèrent des dindes et elles eurent un franc succès parce qu'elles étaient plus grosses et que leur côté exotique était attrayant pour les convives. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on les appelle des dindes ? Eh bien parce que les colons pensaient être arrivés en Inde. Alors quand ils ont trouvé des poulets, ils les ont appelés les poulets d'Inde, donc les dindes.
Côté décoration de Noël, nous avons tous l'habitude de mettre des jolies boules et des guirlandes sur le sapin. Eh bien, figurez-vous qu'en Ukraine, on décore le sapin avec, je vous laisse imaginer, des toiles d'araignées. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'une légende raconte qu'un jour, une famille très pauvre n'avait pas assez d'argent pour décorer son sapin. Alors, pendant la nuit, les araignées ont tissé leurs toiles dans les branches et au matin, la rosée a fait scintiller toutes ces décorations de mille feux.
Encore côté décoration, si on va dans les pays nordiques, à notre époque, on peut trouver des petits boucs en paille qu'on met partout pendant les fêtes. À l'origine, la légende du Yulebok, donc du bouc de Noël, parlait d'un animal qui terrorisait les enfants. Ce n'est qu'au cours des siècles qu'il est devenu celui qui amenait les cadeaux. Chaque année, depuis 1966, les Suédois de la ville de Gävle, j'espère que je le prononce bien, érigent un bouc géant qui détient le record du plus gros bouc de paille du monde avec ses 13 mètres de haut.
Petit gag avant de parler des principaux protagonistes de Noël, sachez que si vous achetez un sapin naturel, quand vous le rentrez chez vous, la chaleur fait croire à tout un tas d'animaux qui s'y abritent que c'est le printemps. Des araignées, des insectes, tous très gentils, hein, inoffensifs et quasiment invisibles, mais qui sont bel et bien conviés sans que vous le sachiez à votre réveillon. Plus on est de fous, plus on rit.
Mesdames et messieurs, il est temps de parler des rennes. Eh oui, que serait Noël sans les rennes? Le traîneau du Père Noël n'avancerait pas, personne n'aurait ses cadeaux et ce serait la cata partout. Alors, cette légende est apparemment apparue en Amérique en 1821 et 1823. On a déjà parlé de 1821 tout à l'heure avec l'apparition du Père Noël. Deux poèmes ont été écrits dans lesquels Santa guide son renne ou ses rennes, selon le poème il y en a un ou huit, à travers la nuit givrée. Dans le second poème, les huit rennes sont même nommées. Il y a quatre mâles et quatre femelles. Les mâles sont Comète, qui apporte le bonheur aux enfants, Cupidon, qui apporte l'amour, Tonnerre, qui est le plus fort, et Fringant, qui est le plus beau. Pour les femelles, ce sont Tornade, qui est la plus rapide, Danseuse, qui est la plus gracieuse, Furie, qui est la plus puissante, et Éclair, qui apporte la lumière.
Rudolf, quant à lui, notre chère reine au nez rouge, apparaît en 1939, dans une histoire, puis une chanson en 1949. On dit que son nez lumineux sert à guider le Père Noël à travers la neige et le brouillard, pour que la tournée se passe au mieux. C'est donc pour cela que le traîneau du Père Noël a 9 rennes. Par contre, il nous faut mentionner un souci scientifique ici. Le zoologiste canadien Andrew Hebda a fait réaliser un jour que tous les rennes devaient être des femelles, parce que ce sont elles qui gardent leur bois jusqu'au printemps, alors qu'à l'époque de Noël, aucun mâle n'a encore les siens.
Et avant de se quitter, on va parler d'une dernière légende, c'est celle qui prétend que la veille de Noël, à minuit pile, les animaux acquièrent la capacité de parler. On ne sait pas trop d'où vient cette légende, peut-être du bœuf et de l'âne qui se sont inclinés à la naissance de Jésus, mais quoi qu'il en soit, cette histoire a évolué de nombreuses fois, passant d'un joli conte à de terribles histoires d'horreur.
Parmi les versions sombres qu'on ne va pas développer ici, il y a des complots des animaux contre leurs gardiens qui finissent plutôt mal. Mais les versions les plus jolies disent que les animaux ont créé un chant dans lequel ils expliquent leur lien avec Jésus. Ainsi, l'âne dit qu'il a porté sa mère jusqu'à Bethléem, la vache dit qu'elle lui a donné sa mangeoire pour son lit et sa paille comme coussin, le mouton dit qu'il lui a donné sa laine comme couverture, et les pigeons disent qu'ils ont roucoulé pour l'endormir. Il y a aussi un mythe qui dit que les abeilles se rassemblent la veille de Noël et chantent un hymne ou que les bœufs se rassemblent dans l'étable et s'agenouillent à minuit.
Et voilà, nous sommes gentiment arrivés à la fin de nos mythes et légendes de Noël. Je pense qu'on pourrait en trouver plein d'autres. On vous laisse chercher si vous en avez envie. Et n'hésitez pas à nous écrire pour nous transmettre de jolies histoires que vous aurez trouvées.
Cette semaine, pas de rendez-vous Nariès. Si ce n'est que s'il vous manque encore quelques cadeaux de Noël, vous pouvez faire votre choix sur la boutique de Nariès et venir les récupérer jeudi matin, dernier délai. Nous avons notamment encore en stock quelques pots de caramel au beurre salé dont vous nous direz des nouvelles. Nous avons aussi de jolis cosmé kits à thème comme la beauté, les bouts de choux ou le bien-être. Et nous avons aussi des packs de roll-on dans une jolie pochette. N'hésitez pas à nous contacter si quelque chose vous intéresse. Et quoi qu'il en soit, la liste de notre boutique écolo est sur notre site internet www.naries.ch.
Et maintenant que cette dernière émission de 2021 est terminée, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de merveilleuses fêtes, de superbes vacances et on se réjouit de vous retrouver à la rentrée.
Pour ceux qui n'ont pas entendu l'émission de la semaine passée, allez chercher le podcast parce que nous avons introduit le nouveau Eco Challenge 2022 pour lequel il y aura un défi par semaine. On vous a donc concocté 52 défis et nous vous avons présenté les 5 premiers dans le dernier épisode côté astuces. Pensez à faire des photos de vos défis et à taguer Association Nariès ou Nariès-CH ainsi que le hashtag EcoChallenge 2022 sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que le défi de la première semaine est d'aérer votre logement 15 minutes par jour, tous les jours de la première semaine.
Et sur ces bonnes paroles, bonne semaine à tous, bon réveillon de Noël et à l'année prochaine!
Joyeux Noël et d'ores et déjà une bonne année 2022!
Genève. Écoutez.